RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct avec aujourd'hui Mehdi Guézard, patron de PME, et nos deux enseignants, Frédéric Farah, professeur d'économie, et Barbara Lefebvre, qui est professeur d'histoire-géographie. On discute, on débat dans les GG, dans les grandes gueules.
Elle n'est pas que professeur de géographie.
Non, elle est aussi inspectrice de police.
Inspectrice de police.
Préavis de grève de la CGT Fonction publique pendant les JO. 5 mois, le préavis de grève, il court à partir de maintenant, de mi-avril jusqu'à mi-septembre. Le temps de mettre la pression sur le gouvernement, ce qui concerne les emplois publics, la pérennité, les salaires, les primes. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal ou scandaleux? C'est normal pour Frédéric et pour Barbara, c'est scandaleux pour Mehdi. Je vais donner la parole à Mickaël et à Sandrine dans un instant. On va voir ce que vous en pensez. Alors, est-ce que c'est scandaleux ou pas? Oui ou non? On y va? On regarde. C'est 56%. Ça, vous trouvez que c'est scandaleux à 56% contre 44%. Ça, mais
ce serait une défaite honorable.
44. Oui,
franchement,
je pensais que
c'est vraiment que j'allais perdre.
Mais non,
Mehdi,
sérieusement. Le bashing marche tellement.
Non, parce que je comprends le.
Oh, le patronat bashing aussi. Hein,
je comprends le raisonnement, Mehdi. Aujourd'hui, il y a une telle détestation aussi du gouvernement, voilà, et le mépris du gouvernement d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal et de Stanislas Guérini, qu'il pouvait y avoir une petite fronde comme ça, tu vois, anti-pouvoir, anti-gouvernement.
Mais ce gouvernement.
Ça, je suis d'accord que ce gouvernement cherche constamment. Mais c'est impressionnant. Hein. Ce gouvernement cherche constamment l'affrontement.
Oui, mais
c'est impressionnant.
Il pue le mépris, ce gouvernement.
Non, mais c'est impressionnant.
Il pue le mépris de classe.
Il pue le mépris de classe. Il prend les gens de haut.
L'un des rares avantages.
Il est insupportable, ce gouvernement.
Depuis 2017, hein, c'est pas
grave. Mickaël est avec nous. Mickaël, bonjour.
Bonjour.
Alors, Frédéric vient de dire, il pue le mépris de classe, ce gouvernement.
Ah, bah, carrément.
Ah, bah, voilà. Bah, vous reprenez l'expression à votre compte aussi. Alors, bonjour, Mickaël. Expliquez.
Bonjour à tout le monde. Alors déjà, la première chose, j'aimerais bien un petit peu de décence, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont pris en otage. Il y a des gens qui ont des couteaux sous la gorge. Donc merci de pas faire des comparaisons pareilles. Les otages, c'est quelque chose. Trouvez d'autres termes. Pris en otage, couteau sous la gorge, s'il vous plaît. C'est vraiment, ça me fend le cœur, moi.
D'accord.
Ça me fend le cœur. Voilà. Après, le but d'un travail de grève, c'est quoi? Bah, c'est déclencher une discussion. Ça suffit. Le patronat, enfin, le patronat, entre guillemets, la direction, refuse toute discussion.
C'est vous quoi, êtes le syndicat, Mickaël?
Je suis pas syndicalisé, je suis dans une entreprise privée.
En plus? Donc, d'accord.
Bah oui, en plus. Mais la direction refuse tout le temps la discussion.
Vous dites, Mickaël, je suis dans une entreprise privée. Quelle est-elle, l'entreprise privée?
Cargo Beamer. C'est une entreprise allemande. On fait du fret ferroviaire.
Ah, d'accord, voilà. Vous êtes dans le fret ferroviaire, donc vous êtes lié aussi au chemin de fer, d'accord.
Ben, je connais bien le chemin de fer. Je travaille avec les
questions. Mais en quoi ça vous concerne?
Ça ne me concerne pas, mais par solidarité, il aimerait bien.
Moi, ça ne me concerne pas, mais tous les jours, je vous écoute, et tous les jours, il y a du classe moyenne bashing, en fait.
D'accord.
Il y a du classe moyenne bashing. Les gens en ont assez d'être pressés comme des citrons. On arrive déjà à peine à s'en sortir. Là, heures supplémentaires imposées. Depuis quand? Depuis quand on n'est pas en Chine ici? Pas encore. Voilà. Bon, après.
Donc c'est le rapport de force. On établit le rapport de force avec les préavis de grève. Okay.
Quelle est l'autre solution? La seule autre solution que le rapport de force, c'est de demander gentiment. Demander gentiment, c'est fait tous les jours. Tous les jours, sans aucune exception. J'ai été syndicaliste pendant 10 ans. Tous les jours, j'ai demandé. Tous les jours. Et tous les jours, ce sont des refus. Donc, à un moment, c'est le rapport de force. Je suis vraiment navré.
C'est pour ça que je rejoins Mickaël. La question.
À la fin de la discussion, grève ou pas grève, ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. Mais le but d'un préavis de grève, c'est déclencher une discussion. C'est
j'ai
de dire,
tout à fait
voilà,
d'accord.
Voilà, il n'y a pas le choix. Si vous ne voulez pas discuter avec nous, alors on se mettra en grève.
Donc Mickaël pour vous, 5 mois de préavis de grève, c'est normal.
Non, mais Mickaël a raison sur un point. On passe notre temps.
Vous savez que sur SNCF Réseau, il y a des préavis de grève sur un an. Et donc, SNCF Réseau dispute avec ses employés.
Vous avez pris le meilleur exemple, SNCF. Hein, vous avez vraiment pris la palme d'or champion du monde de la grève, la SNCF. Ça, je suis d'accord avec
vous. Mickaël a raison sur un point.
Si vous connaissez pas le fret, ne parlez pas du fret.
Non, mais je parle. Monsieur, on a parlé de la SNCF. On a parlé de la SNCF. La seule entreprise qui, depuis 1900, que depuis l'après-guerre, monsieur, n'a jamais passé une année sans faire de grève. Donc, excusez-moi. C'est réel, hein. C'est des faits réels.
Non, mais je vous explique les grèves parce que vous savez pas. Les grèves chez SNCF Réseau, les employés qui vont faire grève doivent déposer une D2I, une demande d'intention, une déclaration d'intention, 48 heures avant. Ce qui fait que la SNCF Réseau a le temps de trouver, des remplaçants. En Allemagne, par exemple, quand il y a un préavis de grève, quand un syndicat, des GDL par exemple, les conducteurs, se mettent en grève au moment où ils commencent leur service. Le gars commence son service à 8h moins 1, il dit « Ah, bonjour, je suis en grève ». Voilà. Et là, il n'y a aucun moyen pour l'infrastructure allemande de se retourner. Donc SNCF Réseau est très très bien organisé au niveau des grèves. Je le vois régulièrement.
Alors, Mickaël, vous dites aujourd'hui, il y en a assez de tapés sur les classes moyennes. Mais... Et vous dites qu'en fait, la fonction publique, tous ceux qui se rebellent un peu aujourd'hui, qui demandent à être augmentés, c'est ceux qui sont pressurés et ceux qui ne gagnent pas suffisamment leur vie, c'est ce que dit Mickaël.
Quelque chose d'important. On passe notre temps à entendre le modèle scandinave, ces pays où il y a tellement de concertations, où on arrive à obtenir le consensus. Mais en France, pourquoi on n'arrive pas à obtenir le consensus? Parce que peut-être qu'il y a deux partis qui sont antagonistes, d'accord, mais ça c'est le principe même de la lutte sociale, voilà, bon ça c'est la base. Mais on a aussi un patronat. Et je ne parle pas des TPE-PME, donc que Médine ne se sente pas concerné. Le TPE-PME, de toute façon, il n'a pas de syndicat dans son entreprise. Donc, il est souvent obligé de négocier parce qu'il n'a pas... Et puis que son intérêt, c'est de travailler en harmonie avec ses employés. Et il n'a pas... Mais dès qu'on arrive dans des entreprises où il y a des syndicats, les grosses entreprises et la fonction publique, c'est aussi la direction qui instaure le rapport de force. C'est pas toujours le syndicat qui instaure le rapport de force. Donc, ils sont tous là à admirer les pays scandinaves, mais qu'eux-mêmes, en tant que patron, en tant que direction, ils aient une mentalité de discussion et de consensus. Mais eux-mêmes ne l'ont pas. Donc c'est facile après de faire de la détestation de syndicats quand eux-mêmes n'ont pas la capacité à faire de la concertation. Et je vais te dire, même un gouvernement ne l'a pas. Quand tu vois que M. Guérini, il invite les syndicats autour de la table, il ne leur parle pas d'un sujet, et ensuite le sujet le plus épineux, il en parle à la radio, comment tu veux qu'après les syndicats ne lui claquent pas la porte au nez
pour arrêter de se foutre du monde ? Si tu as écouté les grandes gueules hier, on a... dit ce qu'on pensait à M. Guérini sur la méthode. Frédéric Farah, et puis ensuite, merci Mickaël d'avoir été engagé. On écoute Sandrine qui nous appelle du Var. Vas-y Fred.
Et là, c'est ce que vient de dire Barbara. On vit dans une société où on a un gouvernement pour qui, effectivement, la démocratie sociale, c'est pas vraiment sa préoccupation. On a vu que ça soit dans l'assurance chômage, l'assurance maladie, une réétatisation massive de tout ça, où les partenaires sociaux sont souvent foulés. Donc, je comprends qu'à un moment donné, on a un corps social qui n'en peut plus et qui a besoin d'utiliser. Regardez, là, les gens sont descendus dans la rue pour les retraites, poliment, gentiment, pendant des mois. L'ensemble des Français étaient contre cette réforme. Le gouvernement leur a marché dessus. Il n'y a que le rapport de force. Le reste, si c'est juste pour descendre, on n'est pas content, Macron t'es foutu, on est dans la rue, mais ça marche pas ça. Ça marche pas. Si on bloque pas, ça marche pas. C'est tout. Les agriculteurs, pourquoi ils sont entendus? Parce qu'ils ont expliqué qu'ils allaient bloquer.
On peut faire une différence aussi entre les agriculteurs et la bien fonction sûr. Publique.
Non mais je sais.
Au niveau du vécu, des revenus et de
des avantages.
Et c'est sûr que dans la fonction publique, nous on est grassement payés.
Non, hein. Il est pas question d'être grassement payé. Et la catégorie C, on est les premiers ici dans les GG à entendre qu'il est la plus petite des catégories.
Avec
un point d'indice qui a été largement et longuement gelé.
Bac plus 6 en moyenne, 25 ans de carrière, on finit à 2004.
Il y a beaucoup d'agriculteurs qui aimeraient avoir les revenus aussi de fonctionnaires, de la fonction publique aussi aujourd'hui, avec la garantie de l'emploi aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est la modalité, c'est que le rapport de force qui veut marcher. Les agriculteurs sont dans des situations extrêmement difficiles, il ne s'agit pas de les minorer. Ils ont pu se faire entendre parce qu'il y a un rapport de force. Sinon, ça ne marche pas.
Ouais.
Sandrine, bonjour.
Voilà, bonjour.
Sandrine, alors vous êtes plutôt dans le camp de Mehdi ou dans le camp de nos deux profs, Frédéric et Barbara?
Ah non, dans le camp de Mehdi.
Pourquoi? Expliquez-nous.
Merci Sandrine.
Bonjour
Sandrine.
Je trouve que, déjà, sans rentrer dans le détail, aujourd'hui on parle d'un événement qui est primordial, qui est important, qui rayonne à l'international, on parle des JO. Et clairement, il y a des gens qui profitent du fait qu'aujourd'hui ça se passe déjà très mal dans le pays. Au niveau de cette organisation-là, pour en plus rajouter des embûches. Je pense que de manière plus patriote, plus générale, on pourrait se dire que c'est peut-être bien de pas trop passer pour des abrutis à travers le monde en mettant en plus du chaos dans un truc qui est déjà pas très bien organisé. Vous voyez mon point de vue ?
Oui, je suis d'accord.
Et je rentre pas dans la bataille je comprends, chacun se bat pour son bistec, chacun négocie.
Ça, c'est logique, ça. Vous avez raison sur ça.
Mais je pense
que c'est la méthode.
C'est ça, c'est la méthode. C'est qu'à un moment donné, les revendications, on peut les entendre. Donc, bien que moi, j'ai quelques opinions par rapport, effectivement, aux fonctionnaires. Je ne dis pas que tous soient des fainéants, mais je pense que les premiers qui mettent à mal, l'image des fonctionnaires, ce sont certains fonctionnaires qui font tout pour entrer dans cette caricature.
Lesquels ? Lesquels, par exemple ?
Par exemple, hier, j'ai écouté l'émission où une dame qui disait qu'ils étaient 8 dans un bureau et 3 à bosser. Voilà, c'est ce genre de choses. Moi, j'ai mon meilleur ami qui travaille à la SNCF depuis 15 ans. Il vient lui, à la base, il était militaire. Donc, vous savez, les militaires n'ont pas le droit du tout de faire grève, c'est interdit. Il a été ensuite dans des
secteurs. Ça a dû le changer, oui.
Comment ?
Non, je dis ça a dû le changer, effectivement.
Ah oui, alors non, parce que lui, en fait, lui, clairement, il me dit, ça fait 12 ans que je suis là, j'entends mes collègues, je trouve ça absurde. J'ai des meilleures conditions que je n'ai jamais eues toute ma vie. Il a travaillé après dans le privé. Il me dit, il n'a jamais fait de grève, pas une seule en 12 ans.
Mais je suis d'accord avec vous, Sandrine. Moi-même, je suis d'accord avec à chaque fois les mouvements de grève, mais je ne fais jamais grève. Parce que, juste, voilà, je sais à quel point, de toute façon, nos mobilisations en tant que prof ne seront pas entendues. Donc, je ne fais pas grève. Je suis de tout cœur avec mes collègues, mais je suis quand même devant mes élèves. Mais c'est pas parce que je fais pas grève que je suis pas d'accord avec les mouvements de grève, voyez-vous?
Non, mais, je comprends. Mais il y a une partie qui est il y a une revendication, par exemple, pour les professeurs. Je comprends une bonne partie de vos revendications.
Mais pourtant, je fais pas grève.
Oui, mais ça, vous le faites bien, parce qu'on ne va pas se mentir. Si les profs commencent à sauter les jours d'école, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup en France, on va se dire les choses clairement. Si en plus les profs ne viennent pas, je pense qu'ils mettent à mal, non pas l'État, mais ils mettent à mal les étudiants.
Oui, vous savez, des fois, les élèves se mettent à mal eux-mêmes.
Hein. Sandrine,
travailler, c'est pas mieux non plus.
Hein. Sandrine, on va rester avec nous, Sandrine, pour écouter Franck qui nous appelle de la Drôme. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue. Préavis de grève, 5 mois. Vous êtes postier, c'est ça ?
Oui.
Alors, est-ce que c'est scandaleux ou pas ?
C'est pas scandaleux du tout. Je pense que, avant de présenter les choses comme en disant, regardez, c'est insupportable, un préavis de 5 mois, je pense qu'il faut rappeler un petit peu ce qu'est la négociation ou ce qu'elle n'est pas, justement. La négociation pour négocier, et je suis donc postier, mais je suis aussi syndicaliste et je pratique la négociation. Souvent, en face on a une direction, alors que ce soit à la Poste, mais aussi on a la SNCF, puisque je partage en interprofessionnel avec mes camarades des autres secteurs d'activité, on a une direction qui est fermée à tout. Qui est fermée à toute augmentation de salaire. Énormément de choses. Et ça, c'est pas assez dit. Donc, si vous voulez, la négociation, elle est déjà entamée depuis des mois. Et quand on a en face de nous, le plus souvent,
Ça ne vous a pas échappé que c'est de l'argent public aussi et qu'il y a quelques difficultés en ce moment aussi, Franck ?
Il y a de l'argent public, évidemment. Alors, tout ce qui est de la Poste, figurez-vous que ce n'est pas de l'argent public parce que la Poste est une société
anonyme.
Entière. Ça n'est jamais été l'impôt qui a financé les postiers. On ne va pas refaire l'histoire. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Donc voilà, il faut être deux pour faire une négociation. Souvent, on a en face de des directions, encore une fois, qui ne veulent pas négocier, qui méprisent d'ailleurs le dialogue social par les déclarations qu'ils font à l'image de certains ministres, à l'image de certains comportements de députés ou de sénateurs. Et après, on s'étonne que le dernier recours que l'on ait quand on doit établir un rapport de force, ce soit la grève.
D'accord. Donc Franck, si jamais vous n'obtenez pas, il faudra envisager que les Jeux Olympiques se passent pas pour le mieux du monde, que ça se passe pas bien.
Alors après, dans le rapport de force, si vous voulez, une grève, quand on fait une grève, si elle ne gêne pas, elle n'a aucun intérêt, la grève.
On est mille fois d'accord.
Si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les organisations syndicales, alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais en tous les cas, pour que ça puisse peser, il faut gêner. Et pour que ça puisse gêner, on dépose des préavis de grève sur des périodes comme par exemple les vacances, comme par exemple les Jeux Olympiques, parce que c'est à ces moments-là, malheureusement, parce que la négociation n'a pas pu obtenir depuis des mois, qu'on peut peut-être essayer d'obtenir des choses par un rapport de force. On est dans un
d'accord.
Pays... Permettez-moi, je termine juste.
Je vous en prie.
Dans une culture du conflit et non pas une culture de la négociation, une culture comme on peut l'avoir dans certains pays effectivement de l'Europe du Nord où d'abord beaucoup de salariés sont syndiqués, donc il y a un rapport de force qui est créé naturellement dans la négociation. Les syndicats pèsent un petit peu plus qu'ils ne pèsent en France par rapport au nombre de syndiqués. Et voilà, tout ceci explique cela. Je termine juste en disant une chose, si vous permettez. Je pense que parler de prise d'otage est honteux, parce que votre collègue qui a parlé de prise d'otage, je voudrais savoir si, quand il y a des grèves, sa vie a été mise en danger.
Monsieur, s'il vous plaît, il faut pas monter sur ces grands chevaux. C'est une expression et on a mis des guillemets. Donc voilà, et on en a même ri avec Barbara. Donc s'il vous plaît, on va pas refaire.
On va pas refaire l'histoire.
D'accord. Et je dis ce que je pense et je pense que je dis. Et pour moi, vous prenez en otage entre guillemets. Des gens qui n'ont pas à subir à chaque fois les aléas. Alors, c'est de fini. Vos revendications. C'est tout.
Après 5 mois de préavis de grève, CGT, force ouvrière.
On va en parler.
C'est scandaleux, oui ou non? Tout à l'heure, on était à 56-44. Hein, 56% de oui, c'est scandaleux. On va voir. Est-ce que vous avez réussi à vous rapprocher? 57-43, vous avez perdu un point, c'est Médic qui a gagné. Merci à France.
C'est pas grave, 43, c'est quand même un beau chiffre.
C'est un beau chiffre.
Et 43, tu peux bloquer le pays.
Mais
hein, 43.
Du coup, compte tenu du contexte anti-fonctionnaire de ce pays, c'est pas 43.
Ouais, moi, c'est très bien.
Marie-France, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Marie-France. C'est vous qui avez été tirée au sort, c'est vous qui gagnez les places pour aller à l'Europa Park, passer deux jours là-bas.
Marie-France. Ah bah c'est gentil. Je suis pas à l'antenne là, je me vois pas à l'antenne.
Non, vous êtes juste au téléphone à la radio, ma chère Marie-France. Marie-France, vous avez gagné quatre places pour deux jours à l'Europa Park, avec l'hôtel 4 étoiles, les 100 attractions, les 13 grands 8, le parc aquatique. Profitez bien, ma chère Marie-France. Faites attention dans le grand 8. Quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 76 ans.
Eh ben, vous allez avoir des sacrées sensations, Marie-France. Vous allez décoller, Marie-France. Vous allez vous régaler, Marie-France. Où vous ferez profiter vos petits-enfants, Marie-France. La cabriole et la galipette dans les grands 8, Marie-France. Vous allez pouvoir en profiter. Je vous embrasse. Profitez bien de l'Europa Park. Dans un instant, un autre match. Barbara Lefebvre.
Ah bah là, ça va être rigolo là.
Face à Jean-Claude Poisat. Prostec.
J'espère qu'il est plus.
Le carnivorisme est un humaniste d'édition Albin Michel.
Parce que le vegan affamé est vraiment terrible.
On a hâte de voir ça et on va le déguster.
Il va avoir beaucoup de sang sur le plateau.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct avec vous, bien sûr, au 32-16 pour discuter, pour débattre. Vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts, c'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Et comme ça, vous pouvez retrouver les 3 heures de GG, les 3 heures de grande gueule, Mehdi Ghezzar, Frédéric Farah, Barbara Lefebvre, et puis les petites indiscrets des GG aussi. Par exemple, s'ils parlent de leur phobie pendant la pub, comme ça, vous en saurez plus sur ceux que vous retrouvez tous les jours entre 9h et midi. Si tu pouvais arrêter de tripoter ton micro, Frédéric Farah, parce que ça fait du bruit. Il est face à toi. Tu poses tes mains sur. Monsieur le professeur, vous posez vos mains sur la table de chaque côté et vous arrêtez de me tripoter ce fichu micro, parce que sinon, il y a Gerbier qui arrive avec une règle en métal.
Ouais.
Je peux dire.
T'imagines ce à quoi tu t'exposes.
Je me rends.
Merci.
Je me rends.
Alors, attention, nous accueillons dans
la fonction publique dans toute sa splendeur.
C'est l'invité des grandes gueules.
Nous sommes avec un professeur agrégé de philosophie, un docteur en sciences politiques. Jean-Claude Poisat, bonjour.
Bonjour.
Mettez bien, alors là, je vais vous demander de mettre le micro bien devant vous. Relevez-le un petit peu.
Voilà.
Voilà, c'est parfait. Donc, vous revenez avec ce livre, Prostec. Le carnivorisme est un humaniste aux éditions Albin Michel. Vous allez discuter avec Barbara, mais on va d'abord planter le décor. Pourquoi avez-vous, monsieur le docteur en philosophie, docteur en sciences politiques, monsieur l'agrégé, pourquoi avez-vous décidé de vous fendre de ce livre qui s'appelle Prostec?
Écoutez, j'ai écrit ce livre un petit peu en réaction contre un discours qu'on entend beaucoup dans les médias, qui se développe de plus en plus, qui effectivement aujourd'hui revient à condamner la consommation de viande, ce que j'appelle un front anti-viande, qui prend de l'ampleur. Et tout simplement, en tant que consommateur de viande, je dirais, j'ai voulu m'exprimer sur ce sujet-là parce que je me sens mis en cause, voire culpabilisé dans mon mode de vie. Voilà.
D'accord. Et vous parlez d'idéologue animaliste dans votre livre.
Oui. Alors effectivement, on peut citer des noms. Il y a des personnalités publiques qui sont intervenues sur ce sujet-là. On peut citer Émeric Caron. Caron, notamment, que je...
Madame Rousseau.
Voilà, bien sûr, j'allais y venir. Monsieur Caron, je prends un peu pour cible, puisqu'il a, il a publié un no-steak, et mon livre, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, c'est le pro-steak. Sandrine Rousseau, évidemment.
Albin Michel aussi, je crois, d'ailleurs. C'est un auteur albin.
Donc. Oui, il a écrit chez Albin Michel, mais je suis pas sûr que no-steak était... Enfin, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des gens qui portent cette parole dans les médias. Maintenant, en back-office, si je puis dire, on a aussi des théoriciens, des têtes pensantes qui ont élaboré une doctrine qui s'appelle... Alors, il y a plusieurs courants. Il y a l'animalisme, il y a le véganisme, il y a l'antispécisme, j'en parle. Donc, c'est des courants qui... Il y a une sorte de nébuleuse avec des courants, des sous-courants.
Nébuleuse, carrément.
Oui, parce qu'il y a des courants et des sous-courants, si vous voulez, les antispécistes, les véganes, les antispécistes, et puis les animalistes ne disent pas forcément exactement la même chose, mais enfin, il y a des convergences de vues, disons, qui reviennent toutes, finalement, alors, plus ou moins à condamner la viande.
Voilà. Et pour arriver à quoi, tu vas prendre part, pour qu'on comprenne. Ils veulent arriver à quoi, selon vous? Quel est leur but, alors?
Alors, si vous voulez, moi, j'ai pas de problème avec, disons, le végétarisme éthique. C'est-à-dire quelqu'un qui me dit, moi je mange pas de viande parce que je veux pas qu'on fasse du mal aux animaux, j'ai aucun problème avec ça, c'est tout à fait respectable. Par contre, j'ai un problème avec le végétarisme politique, à partir du moment où on dit, il va falloir que tout le monde arrête de manger de la viande. Et on va imposer, il y a des gens qui s'appellent les abolitionnistes, qui veulent abolir. Donc le terme est pas neutre, hein. C'est-à-dire l'abolition, ça fait référence à l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort, etc. Donc l'idée, c'est que interdire la viande, ça doit devenir une des grandes causes de l'humanité au XXIe siècle, au XXIIe siècle. Enfin, je ne sais pas.
On avait beaucoup des abolitionnistes, la proportion.
Il y en a, bien sûr.
Oui, non, mais dans le monde animaliste, qui est un monde que je connais bien, puisque j'ai fait plusieurs diplômes et diplômes universitaires, notamment en question d'éthique animale.
D'accord.
Les abolitionnistes, vous en avez très peu, même aux États-Unis, là où vous avez beaucoup, à la suite de Peter Singer et d'autres grands philosophes de philosophie morale, notamment, qui se sont occupés de ces questions-là. L'abolitionnisme, c'est vraiment une portion très réduite de la question de la philosophie animaliste. Non, mais juste pour dire, parce que comme vous parlez de nébuleuse, dans une nébuleuse, il y a un petit côté de complot. Est-ce que pour vous, Corinne Peluchon, Florence Burga ou monsieur Jean-Gène Villemer, je ne remonterai même pas à Pythagore ou à Porphyre, mais non, mais justement, puisque monsieur est philosophe, est-ce que pour vous, Corinne Peluchon ou Florence Burga font partie d'une nébuleuse qui veut empêcher tout le monde de manger de la viande?
Ça tombe très bien que vous en parlez, parce que je leur consacre plusieurs chapitres, justement.
J'ai parlé à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas eu
ce sont des philosophes réfléchissent à la question de l'éthique animale.
Je suis philosophe et je suis venu à cette question par la philosophie précisément et par l'éthique animale. Mais justement, moi, je prends un petit peu la chose à revers. C'est-à-dire que j'ai lu Corinne Peluchon, j'ai lu Florence Burga, j'ai lu Jean-Gène Villemer, j'ai lu tous ces gens et même beaucoup d'autres, et Singer aussi que vous citez, et je commente ces philosophes parce que les personnalités médiatiques qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est, si je vous permettez l'expression, un peu les têtes de gondole pour faire vendre l'idéologie, mais derrière, les têtes pensantes, effectivement, ont élaboré des doctrines beaucoup plus approfondies. Donc je me coltine, si vous permettez, ces doctrines-là dans le détail, et j'aime ça parce que j'aime les idées, le débat d'idées. Je peux pas résumer comme ça en quelques secondes mon livre, évidemment, et ni développer tous les arguments. Mais bien sûr que ces philosophes-là font partie de ce que j'appelle cette nébuleuse. Corinne Peluchon a écrit un manifeste animaliste dans lequel elle préconise la sortie de la consommation de viande. Enfin, donc elle est abolitionniste, si vous voulez, clairement.
Oui, elle est abolitionniste.
Au nom de quoi? Il faut expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut défendre? Puisque c'est ça le débat. Vous dites, vous ne le tranchez pas d'ailleurs dans votre livre. Hein.
C'est bien choisi.
Vous, on sait ce que vous êtes.
Moi, je défends la consommation de viande.
Comment?
C'est bien choisi comme mot.
Oui, voilà, vous ne tranchez pas, excellent. Oui, t'as raison. pourquoi faut-il sauver l'animal? Pourquoi est-ce que sauver l'animal, c'est nous sauver, c'est sauver la planète? C'est ça, pourquoi? Et arrêter de manger de la viande, donc.
Non, moi ce que je dis, c'est qu'on peut aimer et défendre les animaux tout en consommant de la viande.
Ça, c'est mon point de vue,
ce que je défends. Et les animalistes voudraient criminaliser les mangeurs de viande en disant que ce sont des ennemis des animaux. Et ça, c'est ça que je récuse complètement. Je dis qu'on peut, et je dirais même plus, les animalistes veulent interdire la relation entre l'homme et l'animal. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire donc l'élevage, la domestication, même l'équitation aujourd'hui est mise en cause.
Non mais jamais, ni Peter Singer, ni Corinne Peluchon, ni Florence Burga n'ont jamais dit qu'il fallait diaboliser les gens qui mangent la viande, leur interdire de manger de la viande. Vous essayez de fasciser et de faire passer les gens qui veulent apporter une pierre à l'édifice de la question de l'éthique animale. Excusez-nous de ne pas être d'accord avec l'animal machine de Descartes et Malebranche et d'avoir un petit peu avancé, comme Pythagore, comme Montaigne et d'autres. Excusez-nous d'avoir pris un peu d'avance avec Condillac
au XVIIIe siècle.
Pythagore est en avance sur Descartes. Bah oui, Pythagore, oui, sur la question de la question de l'éthique animale, il était
et Porphyre
était un peu en avance sur Descartes. Excusez-moi, l'animal machine, vous êtes en quelque sorte l'incarnation de ceux qui continuent à voir l'animal comme une machine et que donc par exemple, l'élevage intensif qui a considérablement appauvri notre agriculture, appauvri éthiquement aussi et appauvri même la condition de nos agriculteurs, leur a fait tellement de mal et a fait tellement de mal à leur écosystème que aujourd'hui, forcément, quand on est dans l'animal machine, quand on est favorable à la zootechnie, quand on est favorable à l'appauvrissement même zoogénétique des animaux d'élevage pour pouvoir les consommer, bah si. Non, moi, en tout cas,
ce n'est pas ce que j'ai écrit dans mon livre.
Et vous me permettrez de terminer. Lorsqu'on est à 350 millions de tonnes par an de viande consommée, lorsqu'on est dans le monde à 55 milliards d'animaux terrestres tués par an et qu'en France, rien qu'en une journée, on tue 3 millions d'animaux, je pense, monsieur Poisat, que vous n'avez aucune raison de beaucoup vous inquiéter sur le fascisme vegan qui arrive. Alors, vous voyez, je pense que vous avez encore de la marge.
Je peux vous répondre.
Croyez bien.
Vous avez parlé de fascisme, ça tombe très bien, puisque dans mon livre, j'évoque...
C'est vous qui parlez de ça.
J'ai absolument pas parlé de fascisme pour l'instant.
Je vous ai entendu parler de nazification des gens qui mangent de la viande.
J'y viens. Oui, on nazifie les mangeurs de viande. C'est pas moi qui nazifie les véganes, au contraire. Mais je cite un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Un éternel Treblinka, qui est écrit par un historien qui s'appelle Charles Patterson, qui défend la thèse selon laquelle l'abattage des animaux est équivalent à la Shoah.
Non, pas l'équivalent. Il parle des méthodes d'abattage et de la pensée qui est derrière.
Un éternel Treblinka, c'est-à-dire les abattoirs, c'est Treblinka tous les jours.
Mais vous savez comment c'est développé.
Laissez-moi finir.
Cette thèse est reprise par les animaux. Par Corinne Peluchon, par Florence Burga, par Jean-Gène Villemer, qui le cite positivement.
Pas comme ça.
Si, exactement comme ça.
Non, parce que c'est pas vrai.
Vous avez un philosophe qui s'appelle Patrice. Écoutez, je cite toutes les références sont dans le livre.
Vous prenez des mots.
Patrice Rouget qui explique que c'est Auschwitz. Donc, si vous voulez,
vous prenez des parties de ces textes et vous ne voyez pas la dimension. Non, mais je vais vous dire une chose.
Vous allez faire le coup de la citation.
Vous savez comment s'est développée la pensée de l'industrie de l'industrie en série.
J'ai écrit des pages sur Henry Ford.
Excusez-moi, je permets d'informer le téléspectateur, d'accord. C'est lorsqu'il a visité les centres d'abattage de Chicago.
Je sais tout ça, madame.
Il peut y avoir. Dans l'industrie, l'industrie de mort, telle que les nazis l'ont mise en œuvre, rien n'est comparable à la Shoah. C'est certainement pas moi, professeur d'histoire, vegan par ailleurs, professeur d'histoire qui a écrit des livres sur l'enseignement comparé des génocides, qui va me laisser impressionner par un argument d'autorité qui n'en est pas un. Rien n'est comparable à la Shoah. Néanmoins, la question de la méthode industrielle qui consiste précisément à retirer à l'individu que vous tuez tout son caractère d'être vivant sensible, on déshumanise les juifs pour les tuer dans un système industriel, de la même façon que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui consiste précisément à masquer la dimension barbare de l'élevage industriel et des abattages industriels à travers un espèce de substrat marketing pour nous expliquer que finalement tout ça, c'est un mal nécessaire pour se nourrir.
Madame,
excusez-moi, je ne suis pas d'accord.
Mais je les ai traités dans mon ouvrage et je maintiens que cette comparaison est choquante, indécente.
Alors, parce que vous ne comprenez pas la comparaison. On ne compare pas l'extermination des juifs. Pas du tout. On compare la méthode.
Dans votre discussion,
on compare et c'est ça qui ne va pas.
Le système industriel,
pourquoi est-ce qu'on peut être carnivore en étant dans un cycle sain et vertueux?
Alors. Moi, je dis très clairement que je défends, bien entendu, le bien-être animal. Et tous les gens qui travaillent avec les animaux sont tenus. D'ailleurs, c'est inscrit dans la législation, dans le droit européen. Vous avez une charte du respect des droits des animaux, reprise dans, par exemple, il y a une convention européenne qui date de 1976, qui a été reprise ensuite dans d'autres textes. Donc, il y a une protection du bien-être animal, et je suis évidemment pour ça. Et en aucun cas, je ne défends la cruauté envers les animaux. Enfin, que les choses soient claires. Je suis contre le mal, contre la méchanceté, contre la cruauté. Enfin, je veux dire, voilà, on voudrait faire passer les gens qui mangent de la viande pour des gens foncièrement mauvais et méchants. Évidemment, on construit, si vous voulez, vous avez une construction idéologique. D'un côté, il y a le bien, de l'autre côté, il y a le mal. Donc, le régime vegan, c'est le bien absolu et la consommation carnée, c'est le mal absolu.
Qui a dit ça? Mais personne n'a dit ça. Hein.
Je l'argumente dans mon livre.
90% des vegans ne pensent pas qu'ils sont l'incarnation du bien absolu.
Je ne parle pas pour 90% des vegans. D'ailleurs, je ne les connais pas. D'ailleurs, ils représentent 0,3% de la population française.
Vous devriez fréquenter plus d'animalistes et vous devriez discuter davantage avec Florence Burga et Corinne Pelluchon, plutôt que de les lire et de leur prêter des propos qu'elles ne tiennent pas.
Si ça sert à rien d'écrire des livres, je vais m'arrêter là.
Mais non, mais vous leur prêtez des propos qu'elles n'ont pas, donc discutez avec elles dans des débats.
Je lis leurs livres.
Ah ben bah oui, mais vous. Alors excusez-moi.
Excusez-moi, je lis des livres.
Bah vous les lisez apparemment avec un biais cognitif et un biais idéologique qui fait que vous y trouvez des choses qu'elles ne disent jamais. Donc voilà.
Alors donc quand je cite les textes et que je les commente, elles n'ont pas écrit ce qu'elles ont écrit.
C'est pas ce qu'elles ont écrit. Écoutez une conférence de Florence Burga et de Corinne Pelluchon, c'est pas du tout ça.
Alors de toute façon, les trois quarts, 95% des gens qui sont là ne connaissent pas Florence Burga et Madame Pelluchon.
N'est-ce pas,
et on va continuer d'en discuter. Barbara, on vous avait promis que ça serait animé entre Barbara Lefèvre et Jean-Claude Poisat. Ça l'est. Prostec, c'est votre livre. Le carnivorisme est un humanisme, c'est provocateur. Vous vous expliquez, livre aux éditions Albin Michel. On va continuer d'en discuter. Question dans un instant de Frédéric Farah, le bonze, et de Mehdi Guézard, la mesure et la sagesse. Tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Je vous avais promis un débat animé. Il l'est entre Jean-Claude Poisat, le docteur en sciences politiques, l'agrégé de philosophie, à propos de ce livre, Prostec, le carnivorisme est un humaniste aux éditions Albin Michel. Vous avez promis le débat avec Barbara Lefèvre. On l'a, notre débat. Oui. Deux visions qui s'opposent. On a bien compris. Frédéric Farah, oui, question à Jean-Claude Poisat.
J'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais en regardant le livre, en lisant le livre, que l'inquiétude va au-delà de ce rapport entre vegan, manger des steaks ou pas, comme s'il y avait une inquiétude qui pesait sur l'humanisme de manière générale et sur la place de l'individu dans la société. Est-ce que j'ai l'impression que c'est ça le fond que l'on entend dans le discours, et la peur que quelque chose qui est au cœur de notre héritage, qui est l'humanisme, est en train de décliner sous les coups de boutoir de ces idéologies-là.
C'est très juste. effectivement, d'ailleurs c'est le sous-titre de mon livre, c'est le carnivorisme est un humanisme, donc je m'inquiète effectivement sur l'humanisme et les fondements de l'humanisme, donc je remonte un peu en arrière, un philosophe de la Renaissance, je parle de Montaigne, Rabelais, etc. Tout à l'heure on a évoqué Descartes, que je considère aussi comme un humaniste. Si vous voulez, ce que je voudrais dire, c'est que derrière la question de la viande, je pense qu'il y a une quête de pureté, si vous voulez. Il y a une quête d'innocence, quelque chose comme ça. Alors moi j'ai rien contre la quête de pureté quand elle est spirituelle, au contraire elle est respectable. Là où ça me pose problème, c'est quand elle devient politique. C'est quand on dit voilà, mon mode de vie est pur, moi je suis pur et vous êtes impur, etc. Et je vais vous imposer mon mode de vie.
Ah oui, parce que ça, pur. Ce que vous décrivez, c'est le totalitarisme, le fascisme. Et là-dessus, on est bien d'accord.
Bon, alors tant mieux.
On est bien
d'accord. Tomber d'accord sur certains points.
C'est ça que je me sens pas concerné.
Et donc, si vous voulez, c'est là le problème. Et d'autre part, cette quête de pureté, elle est complètement utopique parce que on peut pas manger des fruits et des légumes sans tuer des animaux, par exemple. Vous voyez, donc c'est-à-dire que tout jardinier sait quand il va cultiver des fruits et du légume dans son jardin qu'il va devoir combattre des tas d'espèces parasites, des insectes, des rongeurs, des lapins, des oiseaux qui vont venir manger ses récoltes. Donc Peter Singer en parle d'ailleurs, il dit qu'est-ce qu'on fait avec les lapins qui viennent manger les fruits et légumes dans notre jardin, nous les végétariens. Alors il y a des gens qui ont des solutions expéditives, on les tue. Dans la ville où j'habite, il y a un maire qui est en train de lancer une campagne pour tuer les lapins parce qu'ils sont en train de dévaster tous les jardins, etc. Bon, alors lui il dit non, il faudrait les stériliser. Bon, voilà, on peut trouver des solutions un peu à commun. Enfin, on a quand même un problème, c'est qu'on est en compétition avec d'autres espèces et que effectivement,
on a bien gagné la compétition
aucune vie n'est innocente et aucun mode d'alimentation n'est pur.
Justement,
manger c'est sale.
C'est ça qui est intéressant. C'est quelle est votre définition de l'humanisme? Est-ce que pour vous l'humanisme, c'est que l'humain est un animal qui, par justement ses capacités intellectuelles, cognitives, etc., c'est accorder le droit légitime de dominer, d'exploiter, de manger tous les autres animaux, ou est-ce que l'humanisme, c'est en réalité plutôt une éthique de responsabilité, un sens moral qui permet justement à cet animal qui est l'animal humain de tenir compte davantage de la vie des autres, et en particulier de la vie de ceux qui sont des sujets d'une vie, qui ont une existence par eux-mêmes? Est-ce que c'est... Alors, quelle est votre vision de l'humanisme?
J'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre.
D'accord. Là, donc, quelle est votre définition de l'humanisme?
Vous proposez un choix qui n'est pas le mien. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, d'abord, pour moi, l'humanisme, c'est accepter la condition humaine. Et accepter la condition humaine, c'est que nous sommes mortels, que nous avons à manger, que nous sommes exposés, effectivement, à des maladies, etc., qu'on a des risques de contamination, effectivement, quand on mange. Il y a toujours un danger. C'est pour ça que la viande, d'ailleurs, crée tant de tensions. C'est qu'il y a toujours la crainte aussi. C'est un aliment qui peut contaminer, qui peut tuer. Donc, c'est accepter, d'une certaine manière, notre mortalité. qualité aussi. Et je dirais, c'est accepter que nous avons un corps et que nous sommes pas seulement un esprit. Hein, c'est donc pour ça que je me réfère à Descartes, hein, l'union de l'âme et du corps. Pour moi, c'est non, ça,
c'est
Descartes.
C'est ce que je dis, l'animal-machine.
Hein? Non, pas du tout. C'est
ah
pas
bah ça
ce
va avec, en général.
Non, c'est le Descartes des lettres à Elisabeth. C'est-à-dire, l'homme est a une âme et un corps. Et nous devons accepter que nous ne sommes pas de purs esprits, nous ne sommes pas non plus purement faits de matière, mais nous avons à concilier cette double nature. Nous avons effectivement à manger tous les jours et manger.
Mais alors, j'ai juste une question. Donc, si on suit votre raisonnement, alors par exemple, le loup, le chat ou l'ours a plus le sens de l'humanisme que moi qui suis vegan, par exemple.
Non, pas du tout. Là, non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais au contraire, bien entendu que l'humain a des droits et des devoirs, y compris des devoirs envers les animaux. Moi, ce que je dis, c'est que le respect envers les animaux est d'abord une forme de respect des humains envers eux-mêmes. Et donc, moi, personnellement, il m'est jamais venu à l'idée de torturer les animaux, de leur faire du mal. Mais je vous dirais d'abord par respect pour moi-même et pour mes semblables. Je trouve qu'un humain qui maltraite un animal, il manque de respect aux autres humains. C'est ça l'humanisme. Donc, l'humanisme inclut pour moi le respect de l'animal. Or, certains animalistes,
est-ce que dans l'élevage intensif, il y a pas de torture.
Je termine ce point. Certains animalistes et les plus radicaux voudraient opposer justement respect de l'humain et respect de l'animal.
Et l'élevage intensif, c'est pas de la torture.
J'en parle. Je suis plus élevage extensif, si vous voulez.
Ah oui, mais c'est pas celui qui nourrit les hommes aujourd'hui.
Si, en partie, si, parce que l'élevage bovin.
Le volaille. Mais vous prenez. On prend toujours l'exemple de l'élevage bovin. Mais vous savez très bien que les classes populaires, elles mangent quoi? Elles mangent de la volaille transformée, toute pourrie. Et que la réalité, c'est que les élevages de volaille et de porc aujourd'hui, c'est l'élevage intensif et c'est celui qui pollue. Moi, je suis d'accord avec vous. L'élevage bovin, s'il n'y avait que de l'élevage bovin, ce ne serait pas ça le problème.
Écoutez, je parle des classes populaires, mais je me méfie aussi, si vous voulez, d'un certain mépris à l'égard des classes populaires, parce que les classes populaires, elles ont accès à la consommation de viande depuis assez peu de temps dans l'histoire, pendant des siècles, elles ont été privées de viande. Donc, d'une certaine manière, comme le disent certains historiens, il y a une revanche de la viande. L'accès à la viande, c'est devenu
cette revanche, c'est aussi une augmentation des maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. C'est l'OMS elle-même qui dit que la viande ultra transformée est un gros problème.
On saute un peu
la charcuterie et la viande ultra transformée est un problème de santé publique, monsieur.
Mais c'est
reconnu par l'OMS. Santé publique France aujourd'hui dit il faut manger 500 grammes de viande par semaine.
Je cite les chiffres.
100 grammes pour les moins de 7 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à 86 kilos de viande par an par Français. Les Américains sont à 75. Et ce qu'il faudrait, c'est être à environ 20 kilos. Ce qu'il faudrait, c'est être à 20 kilos à la fois pour l'environnement et pour la santé. 20 kilos de viande par semaine, par an.
Non, ils sont à 130, les Américains.
Les Américains sont à 130,
c'est le pays où on consomme le plus de viande après Hong Kong. Le record du monde, c'est Hong Kong, 140 kilos.
Ça baisse plus vite aux États-Unis qu'en France.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la viande, manger de la viande, le carnivorisme, c'est le patriarcat, comme le défendent aussi.
Qui dit ça?
Sandrine Rousseau, elle est partie. Un peu provocateur.
Moi, j'aime bien.
J'essaye de tenir un discours un peu raisonnable. Je connais les chiffres que vous avancez. D'ailleurs, certains sont pas tout à fait, j'ai pas tout à fait les mêmes que vous, mais peu importe. Mais d'autre part, oui, alors sur la santé, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des raccourcis.
Est-ce qu'on mange trop de viande?
Alors, il y a une surconsommation dans les pays occidentaux.
En 2021, j'ai trouvé les chiffres de 2021 qui étaient un Français mangeait en moyenne 31 kilos de porc par an, 28 de volaille. Et 22 de bœuf.
Mais je peux rejoindre madame.
26 kilos en tout.
Je peux rejoindre madame sur
On était
sur
à 23 kilos par an dans les années 60 en France.
Non seulement on mange trop de viande, mais c'est vrai qu'on peut manger aussi de la viande de mauvaise qualité. Bon, et donc je suis d'accord qu'il peut y avoir une nocivité pour la santé. Donc moi je suis pour le moins mais mieux, évidemment.
On est bien d'accord là-dessus.
Alors on peut se rejoindre, vous voyez, sur certains plans. On pourrait consommer moins de viande, mais de meilleure qualité, voilà. Donc je suis plutôt pour les élevages extensifs, pour un meilleur contrôle des élevages intensifs.
Mais là vous nourrirez pas la planète, hein.
Mais nourrir la planète.
France, hein.
Si vous voulez, l'argument quand c'est à dire faut manger moins de viande pour mieux nourrir la planète, il a aussi des effets pervers. C'est-à-dire qu'à terme, si on doit augmenter la surface agricole, on va aussi déforester, on va aussi utiliser des intrants chimiques.
On
va aussi provoquer.
Vous avez 80% de la surface agricole qui est consacrée au fourrage. Alors excusez-moi, si vous dégagez une grande partie des plantes fourragères qui servent à l'alimentation du bétail et que vous transformez ces surfaces agricoles en surfaces agricoles de végétaux pour l'alimentation humaine, non, vous ne déforestez pas plus. Vous reconvertissez des terres agricoles qui aujourd'hui servent aux plantes fourragères.
Mais l'agriculture provoque aussi des nuisances pour l'environnement, pour le climat.
Tout à fait. Mais
voilà, donc,
est-ce qu'on
opposer
est...
l'agriculture à l'élevage, on est, c'est un non-sens.
Je ne l'oppose pas, je les relis.
Est-ce qu'on est dans un sens de l'histoire aujourd'hui? Alors, il y a peut-être les tenants d'une véritable idéologie, politique, philosophie, mais est-ce qu'on n'est pas dans un sens de l'histoire qui fait que la Terre, il y a une prise de conscience sur les ressources, sur le fait qu'on est allé trop loin dans l'élevage intensif, un sens de l'histoire qui fait qu'on est en train de réduire un peu notre consommation de viande ou
deux
pas,
choses,
sans avoir forcément besoin d'être mené à la baguette, je mets des guillemets.
Quand j'entends le mot sens de l'histoire, je vous dis tout de suite, j'ai une réticence, parce que les idéologies du sens de l'histoire, on en a connu aussi au XXe siècle, hein, l'idée qu'on sait où on va, il y a une direction qui est toute tracée et toute l'humanité y va, etc. Je veux dire, c'est dangereux, c'est pas non plus, enfin, personne ne sait exactement, ne connaît l'avenir, et j'allais dire, heureusement.
Connaît le sens de l'histoire.
Voilà, exactement. Oui, mais voilà, donc oui, il y a des tendances, effectivement. Et le deuxième point, c'est que je ne suis pas en désaccord avec l'idée de réduire la consommation de viande dans les pays occidentaux qui surconsomment. Mais ce qui va se passer, c'est que les pays émergents, de toute façon, vont augmenter leur consommation. Donc, à l'échelle mondiale, la consommation de viande va continuer d'augmenter, exactement, de toute façon. Donc, la tendance, si vous parlez de sens de l'histoire, la tendance mondiale, ça va être l'augmentation. Il y a ce qu'on appelle la transition alimentaire, qui fait que quand une société se modernise, ouais, les gens consomment une alimentation plus variée, qui est une bonne chose, parce que c'est bénéfique pour la santé. Et
c'est pour ça qu'on voit l'explosion de l'obésité Chine, l'explosion de l'obésité au Vietnam, pays qui d'abord
avait
une alimentation beaucoup plus.
Les pays occidentaux disent voilà, nous on a atteint un bien-être alimentaire, mais il ne faudrait pas que les autres y aient accès parce que ça va détruire la planète.
Non.
Il y a quelque chose d'un peu indécent là-dedans.
Justement, monsieur, excusez-moi, le bien-être alimentaire, ça fait depuis plusieurs années qu'aujourd'hui on le remet en question parce que évidemment la faim a reculé et c'est heureux. C'est heureux que la faim ait reculé.
La faim a disparu en Occident.
Puisqu'avec un hectare, on nourrit beaucoup plus de gens aujourd'hui grâce aux progrès technologiques. Néanmoins, dans le même temps, on a une érosion de la diversité zoogénétique, comme j'ai expliqué, puisqu'on a de moins en moins de diversité des races d'élevage, parce que pour fabriquer la viande, le lait et les œufs, on réduit le nombre d'espèces à celles qui vont être les plus productives, puisqu'on est dans de l'industrie. Et par ailleurs, je pense que vous mesurez que, bien sûr, ce recul de la faim conduit. Nous, au contraire, on est l'exemple de ceux qui avons fait le choix de l'industrialisation et qui impacte notre santé. On voit bien l'augmentation des maladies cardiovasculaires, l'obésité qui est liée bien sûr à d'autres facteurs, la sédentarité, on fait ce qu'on veut, mais aussi à l'alimentation et en particulier à la viande transformée et ultra transformée. Donc on peut ne pas vouloir que pour les pays émergents se passe le même délire que nous, ce qu'on est en train de subir aujourd'hui.
Mais le problème,
si vous avez envie qu'on ressemble aux Américains obèses, c'est votre problème, mais pas moi.
Peut-être que ces pays émergents, ils ont le droit de décider pour eux-mêmes de ce qu'ils veulent. Et peut-être qu'ils ont envie d'accéder à un niveau de vie équivalent avec des standards de vie qui leur permettent de manger équilibré.
Les Japonais,
d'avoir une vie plus saine,
les Japonais qui mangent de la viande et qui mangent du poisson, donc vous voyez, ils sont pas véganes, ou les Sud-Coréens. Quand on voit l'alimentation.
Non, les Japonais mangent du bœuf aussi, du bœuf wagyu.
Ils mangent du bœuf, mais quel genre de bœuf? Oui, mais précisément, monsieur, quelle qualité d'aliment?
Mais je vous rejoins sur la qualité.
Ils vivent 100 ans, pourquoi? Parce qu'ils ont une alimentation équilibrée. Mais regardez maintenant certains jeunes Japonais qui bouffent en plus la malbouffe occidentale. Eh bien, eux, ils ont des problèmes. Donc, encore une fois, notre modèle n'est pas le modèle à transposer partout.
On vous avait promis un débat. Il a eu lieu. Allez. Jean-Claude Poisat, Prostec, le carnivoriste d'un humanisme, à lire aux éditions Albin Michel. Merci Barbara, merci Monsieur Poisat, merci à nos deux figurants du jour, Frédéric Farah
et
Mehdi Ghezzar.
On a bien écouté, on a faim et on a décidé.
Et maintenant, ils vont aller bouffer de la viande.
Monsieur Rémi Barré, s'il vous plaît, venez, parce qu'on va continuer de débattre. On se retrouve demain avec Antoine Diers, Elina Dumont et Stéphane Manigold. Bonjour Rémi.
Salut Alain, salut les grandes gueules. Dans un instant, dans Estelle Midi, on va parler de la facture des émeutes de l'été 2022. 1 milliard d'euros de dégâts. Est-ce aux familles de délinquants de rembourser les carburants? Vous avez remarqué, en hausse en ce moment, le prix du gazole, du SP95. Doit-on plafonner les prix à 1,50€? Et puis le gouvernement lance le pass colo. Et si on relançait les colonies de vacances, tiens, t'es allé en colo, toi?
Il n'y a pas d'encadrant, ça va être beau.
Oui, j'ai fait les colos d'hiver. Allez, bon débat avec Rémi. Nous, on se retrouve demain 9h. Et n'oubliez pas les podcasts sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.